Moi qui suis le vrai cep, et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le vrai cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, vous serez alors vraiment mes disciples. Donc Oscar, tu peux venir devant.
Bonjour à tous. Et merci pour la lecture. Je voulais commencer la prédication de ce matin en vous posant une question. Et c'est si je vous demandais quel est l'objectif de votre vie, dans votre vie, qu'est-ce que vous répondrez ? Qu'est-ce que vous direz ? Quelle est la mission que vous avez dans cette vie ? Quelle est la finalité que vous avez dans cette vie, dans la vie que Dieu vous a donnée ou que quelqu'un vous a donnée ou que vous avez reçue ? Qu'est-ce que vous répondriez ? Deuxième question, et si on posait la question à Jésus, qu'est-ce qu'il répondrait ? Qu'est-ce que vous pensez ? Si on demandait à Jésus, et quelle est ta mission, quelle est ta finalité dans cette vie ? Qu'est-ce qu'il répondrait ? Probablement vous pensez à dire, bon, ma mission c'est mourir dans une croix. Bon, Jésus leur a répondu ça, peut-être. Peut-être que vous pensez accomplir la volonté de Dieu, peut-être. Ce sont des réponses. Et je n'ai pas la réponse, hein, ça serait très osé pour ma part de dire j'ai la réponse. Mais ce qui est sûr, c'est que Jésus fait beaucoup, beaucoup constamment beaucoup d'attention, il répète beaucoup, il tombe beaucoup sur le sujet, sur un sujet spécialement particulièrement, et c'est de donner la gloire à Dieu. Ça, c'était sa mission principale. Après, bon, on a vu comme il a fait pour donner la gloire à Dieu, mais il était tout le temps concerné pour que la gloire soit donnée à Dieu. Et ça, on le voit depuis sa naissance. Si vous regardez quand il est né, par exemple, en Luc 2, verset 1, on voit que les bergers, ils ont reçu la nouvelle. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils n'ont pas donné gloire à lui. Ils ont donné gloire à Dieu. Ensuite, quand il a fait des miracles, Jésus, pendant tout son ministère, il a fait plein de miracles. Il a guéri des paralytiques, il a donné la vue à un aveugle, il a fait plein de choses. Et les gens qui voyaient ça, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Il donnait la gloire à Dieu. Je ne sais pas comment il a fait. Hier, j'ai regardé le match de Barça-Real. Je ne sais pas si vous avez regardé. Je ne vais pas parler du score, mais c'est pas la peine. Mais quand tu vois un joueur qui fait un but, par exemple, et tu vois, par exemple, Messi qui fait ça, et tout le stade qui fait Messi, n'est-ce pas ? C'est normal que les gens rendent gloire à la personne qui a fait le bon geste ou qui a fait l'action. Mais dans ces cas-là, dans la Bible, on voit que les gens donnaient gloire à Dieu, pas à Jésus. Et même dans sa mort, si vous regardez, quand il est mort, les centeniers qui étaient avec lui, quand tout est tombé en ténèbres, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a rendu gloire à Dieu. Je ne sais pas comment il a fait Jésus, mais il avait un moyen, il avait à l'esprit de donner toujours gloire à Dieu, et que tout le temps, quand les gens, et peut-être que naturellement, voulaient lui rendre gloire à lui, ils pointaient vers Dieu. Et il tournait les focus, on peut dire, hein, les regards sur Dieu. Et c'est incroyable. Je ne sais pas comment il a fait, mais il a réussi à le faire. Et du coup, la question, je reviens à la question que j'ai posée tout au début du message. Si je vous demande à vous quelle est votre mission, quelle devrait être votre mission, je pense que la réponse devrait être la même que celle de Jésus. Rendre gloire à Dieu aussi avec nos vies, avec ce qu'il nous demande. Et je voulais me concentrer sur le texte que Denis nous a lu ce matin. Et en fait, c'est un texte qui se trouve dans le cadre de la dernière soirée que Jésus a passée, le souper, vous voyez, avec ses disciples. Ces textes, ils se trouvent entre le chapitre 13 et le 17. Donc, c'est à ces moments-là où Jésus, il était avec ses disciples. Il a passé un moment ensemble, il a donné des consignes. Ça, on l'a vu dans les groupes de maison l'année dernière. Donc, si vous les avez suivis, vous avez un peu de contexte. Donc c'est dans ces cadres-là, et même, donc il était près de la mort, Jésus, et il fait beaucoup, beaucoup de références à que la gloire soit donnée à Dieu. Si on regarde par exemple le chapitre 13, verset 31, si vous pouvez me suivre avec vos Bibles. Chapitre 13, verset 31, Jésus a dit... Voilà. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. » Chapitre 14, verset 13, suivez-moi. Chapitre 14, verset 13. J'ai une Bible avec la lettre très, très petite et je n'arrive pas à la lire. C'est mon âge aussi, je pense, qui commence à faire. Alors, chapitre 14, verset 13. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Chapitre 17, verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que quoi ? Que ton Fils te glorifie. » Et regardons le verset 4, parce que pour moi, c'est le résumé. C'est comme si Jésus faisait un bilan de sa vie et disait, chapitre 17, verset 4, « J'ai été glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » C'est comme s'il faisait son bilan dans sa vie, il était fier, il dit au Père, « J'ai été glorifié sur la terre, donc j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, t'es glorifié dans la terre. » Donc si c'est très important, si c'était très important pour Jésus, c'est très important pour nous. Mais maintenant, la question qui se pose, c'est parce qu'on sait que Jésus, il avait une mission, quand il a dit « J'étais glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée », il avait une œuvre, il avait une mission pour lui. Du coup, quelle est notre mission ? Quel est l'appel que nous avons ? Que finalement, ce qu'il va faire, c'est qu'on pourra rendre gloire à Dieu si on l'accomplisse. À quoi est-on appelé ? Qu'est-ce qu'il faut que l'on fasse ? Donc Jésus, il était conscient de ça, de l'importance. Donc il a pris le temps de montrer, d'expliquer à ses disciples qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse pour, comme lui, qu'il rende aussi gloire à Dieu. Donc c'est dans ces textes qu'on trouve cette réponse. Donc on va voir d'abord quel est l'appel, quel est notre appel. Deuxièmement, comment mener à bien notre appel, quels sont les moyens que nous avons pour finalement mener à bien l'appel qu'il nous a donné, et quels sont les bénéfices d'accomplir avec notre appel. Donc, premièrement, quel est notre appel? Comment faire pour rendre gloire à Dieu? Et la réponse, on la trouve directement dans le verset 8. Si vous regardez chapitre 15, verset 8, il est écrit, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. » Voilà l'appel. Il est tout simple. Hein? Bon, il est compliqué, mais il est tout simple. On voit qu'il est vraiment ciblé là. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. C'est notre appel, porter beaucoup de fruits. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que porter beaucoup de fruits? Parce que c'est ça la vraie question. Donc Jésus, il prend le temps d'expliquer ça à ses disciples et il le fait à travers une allégorie. Et il, probablement parce qu'il était dans un endroit où il avait pas mal de vignes, donc il avait été dans un espace fermé avec ses disciples, mais il se déplaçait vers Gethsémani déjà, donc il a passé probablement à côté des vignes, et il a pris davantage de ça, il a profité pour expliquer une vérité à ses disciples. Voyez comment il a commencé, je suis le vrai cep. Et c'est très intéressant qu'il commence avec ça parce que il se compare à un cep. Et je ne sais pas si vous savez, mais à l'Ancien Testament, on a déjà cette image-là. Mais ce n'est pas Jésus qui est comparé à un cep. Vous savez qui c'est qui est comparé à un cep? C'est Israël. C'est le peuple d'Israël, mais pas Jésus. On va lire, si vous pouvez tourner vos Bibles, vous allez m'aider avec la lecture, s'il vous plaît. En Ésaïe 5, versets 1 au 7. Ésaïe 5. De 1 en 7, si quelqu'un peut lire, s'il vous plaît.
Qu'y avait-il encore à faire pour la vie que je n'aurais pas fait ? Pourquoi, alors que j'attendais un beau et bon raisin, n'en a-t-elle produit que de mauvais ? Maintenant donc, je vous ferai savoir ce que je vais faire à ma vie. J'arracherai sa haie pour qu'elle soit broutée. Je ferai une brèche dans sa clôture pour que les passants la piétinent. J'en ferai une friche, nul ne la taillera, nul ne la sarclera. Les ronces, les épines y croîtront librement, et j'interdirai aux nuages de répandre leur pluie sur elle. Or, c'est la nation d'Israël qui est la vigne de l'Éternel, du Seigneur des armées célestes. Le plan qui faisait ses délices, ce sont les habitants du pays de Juda. Il attendait d'eux la droiture, et ce n'est qu'injustice. Il attendait d'eux la justice, et ce sont les cris de détresse.
Donc, merci beaucoup. Donc, ces textes-là, ils nous montrent qui c'était la vigne, hein, à cette époque-là. Mais maintenant, Jésus dit que c'est lui la vigne. C'est plus le peuple d'Israël. Et en fait, quand on regarde ces textes-là ou d'autres textes qui parlent de ça, les psaumes, s'il y a quelqu'un qui prend des notes, vous pouvez noter. Les psaumes 80, versets 8 au 16, Jérémie 2, 21, et Osée 10, 1. Donc, il y a plein de textes. Et on voit toujours que ces textes parlent de la vigne et du peuple en tant que vigne, mais pour parler de l'échec du peuple en tant que vigne de Dieu. Ils ont pas réussi à mener à bien son objectif, hein, c'était de porter de fruits. Ils l'ont pas fait. Donc il nous montre ces textes, le chèque qu'il y a eu. Et maintenant c'est Jésus qui prend la main et qui dit, là c'est moi la vigne, là c'est moi le cep. Parfois dans l'Ancien Testament il parle de vigne, parfois il parle de cep, donc on peut dire que on peut faire cette équivalence. Donc Jésus maintenant dit, là c'est moi le cep. Là, ce n'est plus en fonction de ta nationalité, de ta naissance. Ce n'est plus parce que t'es plus beau ou moins beau. C'est parce que si t'es attaché à moi que tu peux faire partie du cep. C'est que tu peux faire partie de la vigne. Donc ça a complètement changé le jeu, on peut dire. C'est pas la même chose. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, Jésus dit, je suis le vrai. Donc il y a deux choses ici intéressantes. Il dit vrai d'un côté, et donc il laisse voir qu'il a des défauts aussi, des faux cèpes, donc attention à ça. Mais en plus il dit le, il dit pas un vrai cèpe, parce qu'il pourrait qu'on ait plusieurs vrais cèpes, mais il dit je suis le vrai cèpe. Donc ça nous montre que on a juste une façon, on a juste un moyen pour arriver à accomplir cet objectif que nous avons, que c'est de rendre gloire à Dieu, de donner des fruits pour lui, et c'est d'être attaché à ces vrais cèpes, le seul. Donc c'est très important de ça, parce qu'il y a des faux cèpes. Par exemple, pour dire le travail, l'amour à l'argent, mais d'autres encore plus subtils, hein, qui peuvent être là, la famille. On dirait que c'est, pourquoi c'est un faux cèpe ? C'est un faux cèpe. Tout ce qui n'est pas Jésus, c'est un faux cèpe, pour rendre fruit à Dieu. L'église locale, c'est un faux cèpe. Être attaché à l'église locale et ne pas être attaché à Jésus, c'est un faux cèpe. Par exemple, un ministère, être attaché à un ministère, c'est un faux cep. Et même si ça choque, hein, parce qu'on pense que c'est bon, hein, je ne dis pas que ça soit mauvais, mais le seul cep, si on n'est pas attaché à Jésus, on peut être très attaché à notre église, très engagé, être attaché à un ministère, mais on ne va pas donner des fruits pour la gloire de Dieu. Donc c'est très important de garder ça en tête, le vrai cep, le seul cep qui peut nous permettre d'apporter des fruits pour Dieu. Et ensuite, il dit, et mon Père, c'est le vigneron. C'est très intéressant parce que Jésus, même s'il était Dieu, il était Dieu même venu sur terre, et Jésus, il est toujours soumis à Dieu. On voit que les sarments sont soumis au vigneron, mais aussi le cep. Le cep lui-même, il est soumis au vigneron. Donc, on voit bien la dépendance aussi et la soumission de Jésus envers le Père. On le voit encore avec cette allégorie. Alors, la mission du vigneron, c'est très important. On sait qu'il prend soin de la vigne, des cèpes, il prend soin des sarments, il va donner une direction à sa vigne. Donc c'est bien, il prend soin de nous. Mais aussi le vigneron, il a un rôle un peu plus, et on peut dire le côté mauvais, hein. Ça c'est vrai qu'il prend son couteau aussi et il a le droit de couper, hein. Quand il voit que dans la vigne, dans le cep, il y a des choses qui ne vont pas, il a le droit de couper. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément chez les chrétiens, on ne le sent pas forcément toujours comme on ne le prend pas très bien, parce qu'on pense que quand on souffre à cause de Jésus, pour être attaché au cep, il y a quelque chose qui ne va pas. Par contre, le texte, il est clair qu'il dit, même si vous êtes dans le CEP, il y a des choses qui doivent être, comment on dit, émandées, c'est ça? Émandées. Donc, même si vous êtes dans le CEP, il y a toujours des choses à émander. Donc, il y a toujours, et vous pouvez toujours donner plus de fruits. Donc, plutôt que prendre la douleur, et en tant que chrétien, quand on souffre à cause de l'évangile, au lieu de la prendre comme de mal la prendre, il faut la prendre comme que, il faut penser qu'on est entre les mains du Seigneur. Ça doit nous rassurer parce qu'on fait partie du CEP. Et c'est pour cela que Dieu va prendre le couteau. Et parfois, quand on s'arrache un bout de poche, parce que ça vous est déjà arrivé, ça fait mal. Hein. Donc ça peut nous arriver et il faut le prendre comme ça. Quelqu'un peut lire Hébreux 12, 6 et ensuite 12, 11. Ce texte explique très bien ce que je suis en train de dire. Hébreux, chapitre 12, verset 6 et ensuite verset 11. Encore la dernière, la fin, il dit quoi? Quel est l'objectif de la souffrance? Donc c'est produire de fruits, plus de fruits. C'est exactement ce que Jésus il avait déjà annoncé à ses disciples. Donc si vous vous trouvez parfois en traversant des moments de douleur et que vous sentez que vous êtes attaché au CEP, ça veut pas forcément dire que vous vous êtes trompé, que vous êtes dans le faux CEP, mais ça veut peut-être dire... Et il faut prendre du courage parce que ça veut peut-être dire que Dieu nous aime, qu'on est entre les mains du vigneron et qu'il prend soin de nous. Et c'est pour ça qu'on traverse par des moments comme ça. Et nous, qui sommes-nous? Donc, qu'est-ce qu'il dit le texte? Nous sommes qui? Nous sommes les sarments. Donc les sarments, c'est ceux qui ont pour objectif, comme objectif, de porter du fruit. Et qu'est-ce qui se passe avec les sarments qui ne portent pas de fruits? On les coupe, on les jette au feu. Hein. On va voir parce que ça, c'est un texte très qui fait sujet de controverses, beaucoup. Et on va voir, on va toucher un mot. Mais on va d'abord lire le verset. Alors le verset 2 qui dit tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Alors à qui retranche le vigneron? Il dit tous les sarments. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit. Ici, on a deux possibilités. Soit que ça soit un sarment qui porte un fruit, mais qui n'est pas à lui, qui n'est pas en Jésus, qui n'est pas le fruit attendu. Ça, c'est une possibilité. Ce sarment, il est coupé. Soit, il dit, c'est un sarment qui croit être en lui, mais qui ne porte pas de fruit. Vous voyez les deux possibilités? Je répète. Soit c'est un sarment qui porte du fruit, mais qui n'est pas le fruit attendu. Soit c'est un sarment qui croit être attaché au CEP mais qui ne porte pas de fruits. C'est les deux possibilités. Dans tous les cas, Dieu il coupe et ils sont... Qu'est-ce qu'il dit? C'est un peu fort, hein, ça. Afin qu'ils portent encore plus de fruits, il les retranche. Bon, plus tard, on verra qu'il le jette au feu. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? La première possibilité, des gens qui portent de fruits mais qui ne sont pas en lui... Jésus l'avait déjà annoncé, Matthieu 7, quelqu'un peut lire, Matthieu 7, du 15, verset 15 au verset 20. Alors, on voit bien dans ces textes qu'il y a des gens qui portent de fruits, parce qu'il ne dit pas qu'ils ne portent pas de fruits, mais il dit que ce n'est pas le bon fruit, ce n'est pas le fruit attendu. Et on voit bien qu'ils sont aussi coupés, jetés au feu. Et la deuxième possibilité, on la voit en Matthieu 3, 7, verset 7 au verset 10, ceux qui croient être attachés au CEP, mais qui ne portent rien du tout. Matthieu 3, verset 7 au verset 10, si quelqu'un peut lire. Ouais, peut-être dans ma version espagnole, j'avais pas avoir fruits, mais bon, c'est. Donc, ils donnaient pas de fruits. Ils donnaient pas de fruits. Ils croyaient être attachés. Ils croyaient être et le peuple de Dieu, mais ils donnaient pas de fruits. Il y a quelque chose qui se passe. Dans tous les cas, il dit qu'ils seront retranchés et jetés au feu. Et là, il y a une question qui peut se poser. Est-ce que c'est possible, du coup, d'être attaché au cep et un jour être retranché, être jeté au feu? Et dit autrement, est-ce que c'est possible de perdre le salut? Parce qu'on pourrait penser que ce texte dit qu'on peut avoir le salut, mais un jour, on commence à donner rien du tout, et on est coupé, on est jeté au feu. Il y a des gens qui diront oui, et en s'appuyant sur ce type de texte, mais on voit très bien, si on lit l'ensemble de l'évangile de Jean, que ça va contre la doctrine que Jean présente, bon, que Jésus présente à travers, et que Jean rédige à travers son évangile. Donc la réponse est non, on ne peut pas perdre le salut. Alors pourquoi Jésus il dit ça? Très probablement parce que vu que Israël était le cep auparavant, et qu'il s'y croyait encore toujours le cep, Jésus maintenant il dit, j'aurais pas de problème de prendre les serments qui sont aujourd'hui dans le cep. Donc le peuple qui a hérité, parce qu'ils avaient la possibilité toujours de rester sur le cep, on n'aura pas de problème de prendre ces ceps et le couper par-ci, par-là, et vous serez jetés au feu. Donc, c'est pas qu'ils auraient perdu le salut, mais qu'ils seront, et Paul, il parle de l'olivier, hein, il y aura des branches qui seront détachées et d'autres qui seront insérées, et à l'olivier, vous en souvenez, c'est en romain, ces textes-là. Donc, c'est pas que le salut peut se perdre, mais c'est que les juifs de l'époque, ils pouvaient perdre sa possibilité, donc, être jetés et dehors, donc, ne plus faire partie du peuple de Dieu, même s'ils avaient davantage la possibilité de s'insérer, de rester toujours insérés au peuble. Et c'est bon, pour que vous voyez que c'est pas moi qui le dis, si on lit Matthieu 7, verset 21 au verset 23, on voit que ces gens-là qui se croyaient attachés au cep, qui se croyaient avoir le salut, on voit qu'est-ce qu'il dit Jésus, donc c'est la suite du texte qu'on a lu tout à l'heure. Donc c'est Matthieu 7, 21 au 23, si quelqu'un peut lire. Donc c'est là que ça doit nous interpeller beaucoup parce qu'il y a des gens, et sûrement malheureusement aussi parmi nous, donc il faut que chacun s'examine et que nous nous posons la question, qui croyant, et ils croyaient, ces gens-là, ils croyaient vraiment être attachés à Dieu, être des enfants de Dieu, avoir le salut, et qu'est-ce qu'il dit Jésus? Je ne vous connais pas. Je vous dirai un jour, je ne vous ai jamais connu. Donc posons-nous la question, maintenant c'est le moment, hein, c'est le bon moment. Est-ce que Jésus il dira ça de nous ou pas? Donc posons-nous la question, ça vaut le coup. Hein. C'est pas la peine de dire, de croire comme ces gens-là et puis de se tromper. C'est voilà. Donc quel est le fruit qu'il faut donner? Parce qu'on parle de donner du fruit. Si on lit en Galates 5, on sait bien qu'on va pas le lire. Hein. C'est le texte qui parle du fruit de l'esprit. Et c'est très intéressant parce qu'il parle d'un fruit. Parfois, quand j'étais petit, on m'a appris un chant qui disait les fruits. Et on parlait des fruits de l'esprit. Je ne sais pas si vous avez ce genre de chant. Donc, on parle de plusieurs fruits. Par contre, le Galate, il parle d'un fruit. Il parle d'un fruit qui a plusieurs caractéristiques. Donc, c'est l'amour, la joie, etc. Donc, vous connaissez ces textes-là. Donc, on ne peut pas donner un peu de ça et rien de ça. Donc, là, il y a un problème. On ne peut pas dire, je donne du fruit, mais je suis pas du tout patient, mais après j'ai beaucoup d'amour. C'est pas possible. C'est comme les raisins. Quand on regarde le raisin, il a une caractéristique, il a plusieurs composants, on peut dire. Il a un pourcentage de chaque composant. Mais il a tous les composants. On peut pas dire, j'ai pas de peau, j'ai pas, voilà. Il faut quand même que. Donc c'est pareil. On peut pas dire, je donne du fruit, mais celui-là, plus tard, pas aujourd'hui. C'est une conséquence, si on donne du fruit, c'est l'ensemble qu'on va donner. Donc c'est un texte que pour ceux qui ne le connaissent pas, et pour ceux qui le connaissent aussi, pourquoi pas, de le lire chez vous, c'est à recommander. Donc voilà, on a vu quel est notre appel. Notre appel, c'est porter du fruit. Maintenant, comment mener à bien notre appel? Parce que là, on sait qu'il est, mais comment faire pour le mener à bien? Bon, dans le texte, on voit clairement aussi, c'est un texte assez clair, il y a, entre le verset 4 et le verset 7, on trouve « demeurer », le mot « demeurer », conjugué de différentes façons, mais on trouve ces mots-là 9 fois. Donc je pense que c'est un mot important à souligner. Il faut demeurer en Jésus. C'est le moyen qu'on aura pour mener à bien notre appel. Il faut demeurer en Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire demeurer en Jésus? Parce que là, c'est aussi une question. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire demeurer en Jésus? Bon, demeurer, ça veut dire rester. Ça veut dire faire. Hein. Il y a une définition qui me plaît beaucoup. Ça veut dire faire notre foyer, notre maison en lui. Que notre maison soit lui. Ça veut dire demeurer. Et c'est bien parce que ça montre très clairement qu'est-ce qui est attendu de nous en tant que chrétiens. Demeurer, c'est que lui soit notre refuge, comme notre maison. C'est un peu notre refuge que nous avons pour quand la nuit tombe, on a la lumière. Il faut que Jésus soit notre lumière. On a la nourriture à la maison aussi. Jésus, il faut qu'il soit notre nourriture. On a aussi le repos à la maison. On a nos chambres. Hein. On peut s'allonger au lit et rester se reposer. Mais ça va au-delà de ça. Et demeurer, ça veut dire aussi dans les moments difficiles. Dans la traduction espagnole aussi, c'est intéressant parce qu'on parle d'un verbe qu'on utilise beaucoup dans la guerre. Quand on a une bataille, il y a les attaquants qui viennent, les ennemis qui viennent t'attaquer. Je parle des films, je ne connais pas la guerre, mais donc dans le film, on voit bien qu'il y a une équipe, on peut dire, qui est là, qui attend les ennemis qui arrivent. Il y a quelqu'un qui dit, je parle de la traduction en espagnol, demeurez, demeurez, bon, attendez, restez jusqu'au dernier moment. Donc c'est demeurer en Jésus, ça veut dire rester même malgré les circonstances. Parce que là, c'est très bien de dire je demeure parce que lui, c'est mon refuge, je trouve du repos, j'ai la lumière, mais malgré les circonstances, là, c'est plus difficile. Parce que parfois, les circonstances ne sont pas très favorables et on a envie de tout lâcher et de partir et de ne plus rester à la maison, n'est-ce pas? Donc c'est un peu pareil, mais aussi, pas juste malgré les circonstances, mais aussi avec les obligations que ça. Parce qu'une maison, je pense qu'on doit tous payer un loyer ou on a un prêt qu'on a pris pour payer ça, donc on doit la nettoyer, on doit faire des choses hein, pour entretenir la maison. Donc c'est pareil, on a des obligations aussi en tant que chrétien. C'est pas juste je demeure en Jésus, c'est lui ma maison, mais je l'entretiens pas. Il faut qu'on soit actif aussi dans cette tâche de demeurer et qu'on mène aussi à terme nos obligations. Alors il ajoute quelque chose Jésus, c'est très intéressant. C'est au verset 5, c'est chapitre 15. Il répète, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Alors, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et là, ça m'a frappé cette phrase, parce que ça va un peu contre toutes les tendances actuelles, les philosophies. Hein. On nous dit, que ce soit l'entreprise, si on est dans une équipe de foot, par exemple, on nous dit « Ah, tu as beaucoup de potentiel et on essaie de nous pousser. Toi-même, tu es capable de faire beaucoup de choses. » C'est ce qui nous est vendu par la société. On a beaucoup, beaucoup de potentiel. Par contre, Jésus, il dit « C'est à moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, qu'est-ce qu'il faut croire là? Est-ce qu'on a du potentiel? Est-ce qu'on ne peut rien faire sans Jésus? Alors, si je dis qu'on n'a pas du potentiel, je dirais n'importe quoi parce que c'est clair que les êtres humains, Dieu nous a donné des capacités, on a du potentiel, ça c'est sûr. Mais pour cette tâche qui nous est indiquée ici, pour cette mission que nous avons de porter fruit pour la gloire de Dieu, on a zéro potentiel. C'est ça qui dit le texte. Vous avez du potentiel, mais Jésus le dit, vous avez zéro potentiel. Sans moi, vous ne pouvez rien faire pour porter de fruits. Vous pouvez porter des fruits, hein, mais pas des fruits pour la gloire de Dieu. Voilà, c'est assez clair, je pense. Hein. Il ne faut pas que j'explique beaucoup plus. On n'a pas de potentiel, on n'est pas autosuffisant. Il faut demeurer en Jésus pour qu'on puisse porter du fruit pour la gloire de Dieu. Il y a un autre aspect qui est très intéressant, et c'est la réciprocité qu'on voit dans ces textes. Hein. Verset 4, il est écrit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Verset 5, et je l'ai déjà lu, verset 5, « Je suis le sève, vous êtes le sarment, c'est lui qui demeure en moi et que je demeure, et en qui je demeure, pardon. » Verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. » Donc on voit vraiment que ce n'est pas juste qu'il faut que nous on demeure en lui, mais aussi que Jésus, il demeure en nous. C'est une condition nécessaire pour qu'on puisse porter du fruit. Mais c'est une promesse, ça c'est de notre côté, il ne faut pas qu'on s'inquiète. Jésus, il nous dit déjà qu'il va demeurer en nous, et on sait qu'il le fait. Et comme il le fait, parce qu'il est parti, hein. Il est parti il y a plus de 2000 ans. Mais nous savons qu'il le fait, il a dit ici, il a dit à ses disciples, et peut-être qu'il le rappelait parce qu'ils avaient peur, ils avaient compris, ils commençaient à comprendre qu'il partait tout de suite le lendemain. Donc ils avaient peur de rester tout seuls. Imaginez-vous, 3 ans avec lui, et tout d'un coup il s'en va. Ils avaient peur. Et il dit, je vais demeurer en vous. Et comme il allait le faire. Bon, au chapitre 14 donc de Jean, verset 16, on voit la promesse de l'Esprit Saint. Jésus dit, je m'en vais, mais je vous donne mon esprit. Je vous donne l'Esprit Saint. Donc, je vais demeurer en vous. Mais aussi par sa parole. Hein. Verset 7, il dit, si vous demeurez en moi, et mes paroles demeurent en vous. Donc, on voit qu'on a l'Esprit Saint, mais on a aussi les paroles de Jésus qui sont en nous et qu'on peut apprendre aussi à travers la Bible. Donc voilà, on a vu quel est notre appel, et on est appelé à porter des fruits. On a vu quels sont les moyens que nous avons pour le faire. On a juste un moyen de demeurer en Jésus. Et troisièmement, quels sont les bénéfices? Parce que, est-ce qu'il y a des bénéfices derrière? Pourquoi il faut porter des fruits? Pourquoi il faut demeurer en Jésus? Pour le premier bénéfice, on le trouve dans le verset 7. Verset 7 de ce chapitre 15. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Oh. Je le répète. Bon, là, vous le savez, demeurez en moi. Ouais. Demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Je ne sais pas qui peut dire que tout ce qu'il demande à Dieu lui est accordé. Moi je ne peux pas le dire. Cette promesse, elle n'est pas accomplie en moi. Hein. Je ne sais pas en vous, peut-être oui. Mais pourquoi? Je me demandais quand je lisais ça, pourquoi si Jésus promet que tout ce qu'on va demander en son nom, ça, il va nous le donner, pourquoi il ne nous le donne pas? Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que c'est pas vrai? Bon, si on regarde ces derniers chapitres, quand Jésus était avec ses disciples, on voit que c'est très vrai, parce qu'il le répète à plusieurs reprises, on va voir. Jean 14, verset 13. Jésus dit, Jean 14, verset 13, « Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Verset 14, « Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. » Chapitre 15, verset 7, on l'a vu, « Demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Et Jean 15, verset 16, deuxième partie, il dit, « Afin que vous ayez et que vous portiez de fruits et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père et en mon nom, il vous le donne. » Encore une fois. Chapitre 16, verset 23. Chapitre 16, verset 23 et 24. « En ces jours-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous l'ai dit, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. » Jusqu'au présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Donc, ce n'est pas une fois que Jésus le dit. Il dit à plusieurs reprises à ses disciples, demandez à mon nom et tout ce que vous allez demander à mon nom, je vous le donnerai. Donc, qu'est-ce qui se passe là? La question que je me posais quand je lisais ça, je disais, peut-être que quand il a dit ça, il le disait à ses disciples parce qu'ils avaient une mission compliquée. Jésus partait, donc il a dit... Cette promesse-là, elle était juste pour ses disciples à l'époque, mais elle ne s'applique pas pour nous. Mais quand on regarde le texte, c'est la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples, et il donne toute une suite de promesses qui s'accomplissent à nous aussi. Par exemple, le Saint-Esprit, l'envoi du Saint-Esprit. Donc pourquoi pas celle-là? Ça serait pas très cohérent de penser que tout oui, toutes les autres promesses oui, sauf celle-là. Et en plus, si ça apparaît dans la Bible, ça veut dire que ça a un intérêt aussi pour nous, les disciples du 21e siècle. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, pourquoi on ne reçoit pas tout ce qu'on demande à Dieu au nom de Jésus? Si on regarde très en détail ces textes qu'on a lus, on voit d'abord qu'il y a plusieurs conditionnels. Déjà, il dit « demandez à mon nom ». Il faut demander au nom de Jésus. C'est un premier détail qu'on voit dans ces textes-là. Et un deuxième conditionnel qu'on voit, c'est « si vous demeurez dans ma parole, alors demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé ». Donc on a deux conditionnels. Déjà, il faut demander au nom de Jésus et ensuite il faut que sa parole demeure en nous. Et deuxième chose qu'on voit, c'est qu'il y a un objectif derrière de cette prière, de la prière quand on prie pour que ça, les choses qu'on demande nous soient accordées. C'est que d'abord, en Jean 14, 13, on voit que c'est que le Père soit glorifié, encore. Donc quand on demande quelque chose pour nous, ce n'est pas pour nous, c'est pour que le Père, à la fin, soit glorifié. Et la deuxième chose, c'est pour que notre joie soit accomplie, soit parfaite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, alors, demander au nom de Jésus? Pourquoi demander au nom de Jésus pour qu'on puisse recevoir tout ce qu'on demande? Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que Jésus doit prier au Père pour nous? Est-ce qu'on doit passer par Jésus? C'est une question, comment dire, piège. Vous pensez quoi? Oui? Bon, on sait que Jésus, c'est à travers lui qu'on a accès au Père, ça c'est sûr. Mais quand on lit Jean 14... Et Jean 16, pardon, verset 26. Jean 16, 26, il est écrit « En ces jours-là, vous demanderez à mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'aimez, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. » Donc, Jésus dit qu'il ne faut pas prier en son nom parce que c'est lui qui va prier pour nous auprès du Père. Parce que le Père, il nous aime déjà. Donc, ce n'est pas lui qui va prier pour nous. C'est sûr qu'il est le moyen qu'on a pour arriver à Dieu. Mais du coup, quand on met Jésus dans la boucle, on peut dire, de nos prières, quel est le fait, pourquoi il faut le faire? Alors, quand on prie au nom de Jésus, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on fait Jésus partie de nos prières. Ça veut dire que quand on prie au nom de Jésus, il faut quand même que ce que l'on est en train de prier soit la volonté de Jésus. On est d'accord? On ne peut pas dire... Je demande ça au Père et je dis au nom de Jésus, c'est Jésus aussi qui le demande, et puis que Jésus ne soit pas d'accord. Il faut être sûr que ce qu'on prie, Jésus il est d'accord, c'est selon sa volonté. Si c'est selon la volonté de Jésus et que Jésus il est Dieu même, c'est selon la volonté de Dieu. Et si ce que l'on est en train de demander c'est selon la volonté de Dieu, forcément Dieu va nous l'accorder parce que c'est sa volonté. Non, je pense que c'est plus simple qu'est-ce qui paraît, mais c'est compliqué en même temps parce que on dirait que ça, on n'arrive pas à le vivre. Mais peut-être c'est parce qu'on ne demande pas selon la volonté de Jésus. On croit, peut-être que c'est la volonté de Jésus. On met Jésus dans la boucle, on dit au nom de Jésus, amen, hein, on le dit ça. Mais peut-être que Jésus n'est pas d'accord. Donc d'abord, avant de prier au nom de Jésus, posons-nous la question, est-ce que c'est la volonté de Jésus? Est-ce que c'est vraiment la volonté de Jésus? Est-ce que vraiment j'ai le droit à utiliser son nom pour cette prière ou pas? Et ça, c'est très intéressant aussi. Je parlais de l'objectif. Finalement, l'objectif, c'est que Dieu reçoit encore la gloire. Donc, on revient, on ferme la boucle avec tout ce qu'on est en train de parler. Quand on va prier, Dieu va accomplir sa volonté en nous parce qu'on prie selon sa volonté. Et la finalité, c'est pas que nous on reçoit, hein, c'est que Dieu à la fois reçoit la gloire à travers nous. Donc, c'est toujours ça. C'est la gloire. On revient au sujet principal de la méditation de ce matin. Et deuxième avantage, donc on est en train de parler tout le temps, verset 8, il est écrit, donc première on l'a vu, tout ce qu'on va demander au Père, ça sera accompli en lui, donc demandons. Hein. Verset 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Deuxième bénéfice, deuxième avantage, le Père sera glorifié si on apporte beaucoup, beaucoup de fruits. Donc ça on l'a déjà vu, hein. Je ne veux pas m'attarder sur ça, mais c'est le moyen... Que nous avons de donner gloire à Dieu à travers nos fruits. Et maintenant, la fin de ce verset 8, il dit, et je vais le lire, c'est « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. » Et c'est un détail qui m'a touché aussi. Il dit à la fin « Et que vous serez mes disciples. » Parce que parfois, on pense qu'être disciple de Jésus, consiste à faire une déclaration de foi, consiste à se faire baptiser, consiste à participer à l'église, venir à l'église, à avoir un ministère, à, je sais pas, à participer à la louange, prêcher, passer les offrandes. Mais ici, on voit que c'est pas un choix, mais c'est une conséquence. Les choix, c'est de vouloir suivre Jésus. Alors, on va porter des fruits et en conséquence, on va être des disciples. C'est comme ça que je le dis. Hein. On va le relire. Verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, il y a des choses qui vont se passer. C'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc, on est jugé, on sait si on est des disciples de Jésus en fonction des fruits qu'on porte. Si on est capable de porter du fruit, on peut se considérer des disciples. Ce n'est pas parce qu'on est baptisé, ce n'est pas parce qu'on vient à l'église qu'on est ses disciples. Donc voilà, on voit bien que c'est un peu différent peut-être à ce que l'on pense d'habitude. Hein. Humainement, ça nous paraît plus logique l'autre. Hein. Quand on fait une déclaration, c'est parce qu'on le croit. Mais c'est pas ce que Jésus le pense. Il regarde et tes fruits et mes fruits. Ton fruit et mon fruit, on va l'appeler comme ça. C'est un fruit avec beaucoup de caractéristiques. Donc juste pour conclure, je voudrais revenir tout au début du texte avec la première phrase que Jésus dit, c'est « Je suis ». Hein ? C'est très intéressant parce que c'est la dernière fois que Jésus dit « Je suis », mais c'est pas la première. À travers l'évangile de Jean, on voit à plusieurs reprises, beaucoup de fois, il dit « Je suis », parfois juste pour expliquer à quelqu'un qui il était, mais beaucoup de fois, il fait référence au nom du Père. Hein. Vous savez, en Exode 3, quand Dieu il est apparu à Moïse, et que Moïse, bon, Dieu a dit à Moïse, vous irez en Égypte pour sortir le peuple, et Moïse, il a dit, mais qu'est-ce que je veux dire? Qui c'est qui m'envoie? Et Dieu, il a dit, je suis. Je me mets à la peau de Moïse, et c'est quoi cette réponse? N'est-ce pas? C'est un peu, je vais là, et qui vous envoie? Je suis m'envoie. Bon, c'est le nom que Dieu a donné. Mais on voit à travers Jésus que, d'un côté, il reprend le nom de Dieu, il prend ces noms de Dieu pour lui-même. Donc, par exemple, je vous demanderai de lire un exemple. Jean 4, verset 26, si quelqu'un peut lire. Quelqu'un d'autre qui cherche. Et Jean 8, verset 24. Jean 4, 26, Jean 8, 24. Et Jean 8, 58, par exemple. Donc, c'est trois. Il y en a d'autres, hein, mais... Jean 4, 26. Si quelqu'un peut lire.
Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle.
Voilà, il prend le nom de Dieu. Je le suis, je suis. Jean 8, 24. Peut-être que je me suis trompé de texte. 24. Ok.
C'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans le péché. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans le péché.
Voilà. Que moi aussi je suis. Donc c'est Dieu même. Il est en train de dire je suis. Après tout ça, si on regarde les textes, on voit que les Juifs ont essayé de les jeter des pierres parce qu'ils savaient ce qu'il était en train de dire. Hein. C'était pas parce que parfois je me disais, ah, les Juifs étaient un peu méchants parce qu'ils jetaient des pierres à juste Jésus. Mais Jésus était en train de dire, je suis Dieu, hein, avec ça. Verset 58 du chapitre 8. Voilà. Encore une fois. Avant qu'Abraham fût, je suis. Donc il prend le nom de Dieu et il se le donne à lui-même. Et parfois il rajoutait des choses pour... Et ça, je le voyais un peu comme donner une explication de qui il était vraiment. Parfois il rajoutait un complément. Il a parlé de « je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde », n'est-ce pas ? « Je suis le vrai cèpe maintenant, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, je suis la porte, je suis le bon berger ». Jusqu'à cette fois, il a ajouté un complément, et ça me fait plaisir de voir ça, parce qu'on voit que Dieu, à travers Jésus, il s'est révélé complètement. Moïse, il a appris que je suis, c'est tout ce qu'il a appris de Dieu à ces moments-là, mais c'est comme si Jésus venait et il donnait encore plus d'explications aux gens. C'était la révélation parfaite de Dieu à travers son Fils, et pour que son peuple voyait clairement qui c'était lui. Donc Dieu, à travers Jésus, il s'est Il s'est montré au monde et Jésus a pu prendre ses noms, le nom de Dieu, pour lui-même et se l'approprier. Philippiens 2, verset 9 jusqu'au verset 11, si quelqu'un peut lire. Parce qu'on va voir, c'est juste pour finir, on va voir pourquoi Jésus a pu prendre ces noms-là et quel était encore l'objectif de Jésus quand ces noms lui ont été accordés. Philippiens 2, verset 9 au 11. Dernière phrase.
Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
Voilà, à la gloire de Dieu le Père. Encore une fois, c'était l'objectif que Dieu avait de donner à Jésus son même nom, que la gloire soit donnée au Père. Donc, j'ai voulu faire référence à cette expression « je suis » parce que ces messages-là et notre foi, elle est basée sur cette vérité. Si on n'est pas sûr, si on n'a pas l'assurance et si on ne le croit pas, que Jésus, il est Dieu même, il est le CEP et qu'on ne peut rien faire sans lui, comme il dit, on ne peut rien faire et pour accomplir notre objectif dans la terre, ça ne sert à rien qu'on écoute ce que j'ai dit ce matin. Tout ça, c'est basé sur l'affirmation que Jésus est le « je suis » aussi. Et le « je suis » est le Fils de Dieu, mais Dieu même. Et que sur celui sur lequel on va demeurer, c'est Dieu même. Parce que parfois, on fait la différence, il y a des gens qui sont plutôt Jésus, il y a des gens qui sont plutôt Dieu. Je ne sais pas si vous avez cette impression-là. Il y a des gens qui prient plutôt à Jésus, d'autres qui prient plutôt à Dieu. Il faut penser, savoir, avoir l'assurance que Jésus est Dieu et que c'est Dieu qui l'a envoyé et c'est Jésus qui est rentré pour être à côté du Père. Donc c'est vraiment la même personne et ne pas faire la différence et savoir que sur celui que l'on demeure, c'est Dieu même. Donc que Dieu nous aide à ça, à accomplir avec notre appel, à vouloir porter du fruit, à le faire en demeurant en lui. Et qu'on ne soit pas jeté au feu, comme il dit, et que tout ça soit pour la gloire de Dieu, et aussi pour que lui, il puisse accomplir ses promesses en nous, que tout ce qu'on va demander, ça nous soit accordé, parce qu'on prie selon la volonté de Dieu. Prions. Seigneur, merci, parce que tu nous donnes ta parole ce matin. Seigneur, tu nous rappelles que tu es le vigneron qui donne direction à ton peuple, qui donne du sens à la vigne, au cep, Seigneur, et que tu nous aimes. C'est pour cela que tu prends soin de nous, mais aussi que tu nous aimons, Seigneur, pour qu'on puisse apporter plus de fruits. Et nous voulons te demander de la patience, Seigneur, pour apprendre cela, pour être conscient que ça peut nous arriver, mais surtout qu'on demeure en ton Fils, Seigneur, parce que c'est ça qui nous est demandé, c'est ça qui fera qu'on puisse accomplir avec l'objectif que tu nous as donné, Seigneur. Merci parce que tu as voulu que ça soit nous, qui, à travers nous, que la gloire soit à toi, Seigneur, et que tu as choisi ça au lieu de choisir d'autres choses, d'autres possibilités, mais que tu veux que ça soit comme ça. Et nous te demandons l'aide pour pouvoir accomplir cette mission que nous avons, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen.